Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'idolâtrie, un thème qui réapparaît tout au long de la Bible.
Nous y réfléchirons en compagnie de Jean-Marc et nous verrons à quel point ce thème, qui peut sembler à première vue démodé, est en fait très pertinent et d'actualité. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons appris qu'au temps de Moïse, le peuple d'Israël, malgré la délivrance que l'Éternel avait accomplie pour lui, s'était fait une idole et s'était mis à se prosterner devant elle.
Oui, et malheureusement, ce qui se passa à ce moment-là ne représente pas un cas isolé. Car en lisant l'Ancien Testament, nous constatons que tout au long de l'histoire de ce peuple, ces gens se sont toujours sentis tiraillés entre leur adoration pour l'Éternel, le seul Dieu vivant et vrai, et leur adoration pour les idoles telles que les peuples qui les entouraient la pratiquaient. De la même manière, le chrétien peut se sentir tiraillé entre son culte pour Dieu et les idoles présentes dans la culture. Alors pour commencer aujourd'hui, je voudrais montrer la façon dont les prophètes de l'Ancien Testament ont abordé ces problèmes, notamment à travers les écrits du prophète Ésaïe.
Peut-on lire ce qu'Ésaïe a écrit à ce sujet ?
Oui, quelques extraits. Ésaïe a beaucoup lutté pour dénoncer l'idolâtrie, mais voici le texte que je voudrais souligner. Il est assez long, mais très important. Voici ce que Dieu déclare à travers son prophète au chapitre 44 de son livre.
Qui est semblable à moi ? Qu'il le déclare donc, qu'il fasse donc savoir, et qu'il expose les événements qui se sont produits depuis que j'ai fondé ce peuple pour toujours. Qu'il annonce d'avance ce qui doit arriver. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps déjà, je vous ai informé. Je vous l'ai fait savoir. Vous êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais aucun. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néants. Et leurs plus belles œuvres ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien et ils ne savent rien. Ils rougiront de honte. À quoi bon faire un dieu, couler une statue qui n'est d'aucun profit ? Voici le sculpteur. Il a coupé des cèdres. Ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne qu'il a laissé devenir bien robuste parmi les arbres des forêts. Ou bien il prend un pin qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. Or, l'homme se sert de ses bois pour les brûler. Il en prend une part pour se chauffer. Il allume le feu pour y cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu. Et il l'adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ce bois, il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande, il fait cuire un rôti et il s'en rassasie. Il prend aussi une part de ce bois pour se chauffer. Quant au reste du bois, il en fait une idole. Il la prend pour son dieu. Il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit « Délivre-moi, car toi, tu es mon dieu ». Ils sont sans connaissance, ils ne comprennent rien et ils n'ont pas d'intelligence. On a bouché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas. On a fermé leur cœur afin qu'ils ne saisissent pas. Aucun ne réfléchit, aucun n'a de savoir ni assez de raison pour se dire en lui-même. J'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu. J'ai aussi cuit du pain sur les braises du bois. J'ai rôti de la viande dont je me suis nourri. Et de ce qui restait, j'ai fait une abomination. Je me suis prosterné devant un bout de bois. Il se repaît de cendres car son cœur abusé l'a mené dans l'erreur. Il ne sauvera pas sa vie et ne dira jamais « Ce que je tiens en main, n'est-ce pas une tromperie ?» Souviens-toi de cela, ô peuple de Jacob. Souviens-toi, Israël, tu es mon serviteur. C'est moi qui t'ai formé. Tu es mon serviteur, ô Israël. Je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je t'ai délivré. Exulte d'allégresse, ô ciel, car l'Éternel est entré en action. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Criez de joie, montagne, et vous aussi, forêt, ainsi que tous vos arbres, car l'Éternel a délivré Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Voici ce que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès le sein maternel. Oui, c'est moi l'Éternel qui ai fait toutes choses. Moi seul j'ai déployé le ciel, j'ai étendu la terre sans aucune aide. Je rends vains les présages des diseurs de mensonges. Je fais délirer les devins. Je repousse les sages. Je fais tourner leur science en déraison.
Merci Sandra. Que dit donc le prophète à ceux qui se tournent vers des faux dieux?
À travers ce discours du prophète, l'Éternel veut atteindre deux buts. Le premier, tourner en dérision la pratique de l'idolâtrie. Et le deuxième, rappeler au peuple qui il est, les merveilles qu'il a accomplies pour eux et ce qu'ils devraient représenter dans leur cœur.
Commençons avec le premier point. Comment le prophète tourne-t-il la pratique de l'idolâtrie en dérision?
Il démontre que cette pratique est tout à fait illogique et irrationnelle. Il prouve en fait que par le biais de l'idolâtrie, les hommes utilisent les bonnes choses que Dieu a créées, mais qu'ils les destinent à un mauvais usage, tout en leur attribuant un pouvoir qu'elles n'ont pas. Utilisées ainsi, elles ne pourront que décevoir. Ésaïe illustre ses propos avec un exemple, celui de l'homme qui coupe un arbre pour se servir du bois qu'il fournit. Or Dieu lui-même a créé l'arbre, et il veille sur sa croissance. L'homme, quant à lui, le coupe et destine son bois à plusieurs usages. Il va être brûlé afin de faire la cuisine, il va même pouvoir chauffer sa maison. Et puis avec ce même bois provenant du même arbre, il va sculpter un dieu, se prosterner devant lui, tout en lui attribuant une série de pouvoirs magiques et extraordinaires. En réalité, il ne s'agit là que d'un morceau de bois, créé par le dieu tout-puissant lui-même. Un bout de bois qui peut servir à différents usages, il est vrai, mais qui ne pourra jamais réaliser ce que seul Dieu peut accomplir.
Le prophète désire prouver que les idoles faites de mains d'hommes n'ont aucun pouvoir. Mais qu'en dites-vous de ceux qui font appel aux esprits lors de pratiques occultes? Il s'agit d'idolâtrie. Et pourtant, parfois, on peut penser qu'il se passe des choses, comme si des esprits avaient réellement un pouvoir pour influencer des vies.
La Bible parle de l'existence de puissances spirituelles maléfiques qui s'opposent à Dieu et qui désirent rendre les gens esclaves d'idoles ou de comportements destructeurs. Leur principale arme est le mensonge. Elles veulent ainsi convaincre les hommes que les idoles qu'ils créent ont de réels pouvoirs, alors qu'elles n'en ont pas du tout. Ces puissances maléfiques ont suffisamment de pouvoir pour influencer certains événements et faire croire aux gens que leurs idoles sont réelles. Mais leur désir le plus profond est d'empêcher les gens de venir à la vérité, de rencontrer celui qui est vrai, le Seigneur Jésus. Elles veulent gâcher la vie des êtres humains.
Et qu'en est-il de ceux qui vivent prisonniers d'idoles, tels que l'argent par exemple?
Nous pouvons employer le même raisonnement. L'argent est un outil nécessaire permettant le bon fonctionnement de la société, en facilitant l'échange de produits et de services. Cependant, l'argent devient une idole lorsque nous lui attribuons une importance telle que nous cherchons en lui tout ce que Dieu seul peut apporter. Pensons-nous que l'argent seul peut nous procurer le bonheur et nous satisfaire? Si cette pensée nous domine au point que nous poursuivions sans relâche le but de nous enrichir, alors nous négligeons ce qui est plus important encore, Dieu lui-même, nos familles aussi. Beaucoup parmi les riches avouent qu'ils n'ont pas atteint le sentiment d'épanouissement qu'ils espéraient trouver en s'enrichissant, ce qui les pousse pourtant à amasser toujours plus encore. Le diable, appelé le père du mensonge, l'ennemi spirituel de Dieu, veut semer dans nos cœurs cette pensée que l'argent seul offre le bonheur et non Dieu. Ainsi, cette soif d'argent, cette idole qui peut dominer les vies, est générée à la fois par nos désirs excessifs et trompeurs et par les mensonges du diable. Et pour en finir, toute idole s'avère sans grande utilité et mène à notre perte.
Le prophète avait bien raison de les tourner en dérision alors.
Oui, l'ironie qui apparaît dans les versets lus en début d'émission vise à choquer et à interpeller, car l'Éternel, à travers le prophète, veut réveiller ceux qui sont prisonniers des chemins idolâtres.
Mais Jean-Marc, quel remède le prophète propose-t-il alors ?
Nous y reviendrons davantage lors d'une prochaine émission. Mais nous pouvons affirmer dès à présent qu'à travers le prophète Ésaïe, Dieu s'adresse à son peuple afin de lui rappeler qu'il est le Dieu vrai et le seul Dieu. Maintes fois, dans le passé, où il leur a prouvé, il est leur sauveur, lui seul, et digne de confiance et d'adoration.
Oui, Dieu déclare pour commencer, « Qui est semblable à moi ?»
En effet, Dieu est incomparable. Aucune idole ne peut l'égaler. Dieu est le Créateur. Tout a été créé par lui. Que peuvent les idoles façonnées de nos mains ou issues de nos pensées ? Elles ne génèrent qu'angoisse et malheur. Cependant, Dieu se révèle. Il est le Créateur, mais aussi le Libérateur, le Dieu Sauveur, celui qui agit dans les vies, dans les cœurs pour faire du bien. Les uns et les autres se tournent vers des idoles dans l'attente de trouver une solution à leurs problèmes. Ils croient qu'elles vont les libérer, venir à leur secours ou pourvoir à un besoin précis. Les esprits mauvais, il est vrai, peuvent répandre de faux encouragements car ils travaillent pour convaincre les gens de les suivre. Toutefois, la pratique de l'idolâtrie finit toujours par rendre ceux qui s'y adonnent esclaves de fausses croyances, de sentiments négatifs et de comportements destructeurs.
Et c'est justement parce que les idoles manipulent et rendent esclaves les êtres humains qu'ils ont besoin d'un véritable libérateur.
Absolument. Et Dieu se présente comme ce sauveur. Il est celui qui pardonne le péché pratiqué dans l'idolâtrie. Il est celui qui libère de la domination des idoles, de leur esclavage. Toutes les fois que nous sommes tentés de nous tourner vers des idoles, nous devons faire l'effort de nous souvenir de l'enseignement d'Ésaïe. Les idoles n'ont pas de pouvoir, si ce n'est celui de nous conduire dans l'erreur et vers le malheur. Les puissances derrière les idoles sont dépourvues d'amour. Elles veulent nous faire du mal, elles désirent nous nuire. Par contre, Dieu est le Tout-Puissant, il est le Créateur, il est le Sauveur, et il nous aime. Il déploie toutes ses bonnes qualités et sa puissance pour notre bien. Vers qui se tourner ? Le choix devrait être facile à faire.
Merci Jean-Marc pour ces conseils. Nous n'avons pas eu le temps aujourd'hui d'inclure notre courte méditation biblique, car il nous semblait bon de nous attarder sur ces leçons importantes.
Chers amis auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute. Et en attendant de vous retrouver la prochaine fois, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.